Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Merci d'abord à Léa Guichou pour les informations, on la retrouvera à midi tout à l'heure. Et bienvenue à tous, Place du Marché qui est un peu plus tôt une place à table aujourd'hui, hein, parce que confinement oblige, on est tous tankés chez nous, comme on dit, pas reclus, mais en tout cas confinés, et la plupart d'entre nous se vaquent à des occupations auxquelles ils n'ont pas souvent accès, notamment la cuisine. Et alors ça intéresse évidemment cette émission et tous ceux qui l'écoutent de savoir qui cuisine. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on pense à un secteur d'activité, à des gens qui ont été extrêmement touchés. Alors tout le monde est touché, bien entendu, mais les premiers à prendre de plein fouet cette épidémie, ce sont les chefs, les restaurateurs, les hôteliers, enfin tous ceux qui nous donnent à manger l'habitude en extérieur et qui ont aujourd'hui vraiment beaucoup de difficultés. Et on va retrouver au cours de cette émission quelques chefs, quelques très beaux chefs qui nous parlent de leur confinement, de leurs conditions et de leur cuisine. Et ils nous donneront même des petites recettes, je leur ai demandé, les recettes, ce que j'appelle les recettes du placard, c'est-à-dire les recettes que l'on fait avec les produits qu'on a chez soi lorsqu'on ne peut pas vraiment aller faire son marché aussi librement que d'habitude. Mais pour démarrer cette émission que j'ai appelée les chefs à la maison, eh bien, je voudrais inviter un peu le patron des chefs, puisque c'est Didier Chenet, le président du GNI, le Groupement National des Indépendants. Bonjour Didier Chenet.
Bonjour Vincent.
Alors, d'abord, un petit mot sur le GNI, qui est en fait une fédération des chefs, quoi, une interprofession.
Oui, c'est une interprofession, en tous les cas, qui regroupe toutes les entreprises patrimoniales indépendantes, donc effectivement particulièrement touchées par cette situation.
Patrimoniales les restaurateurs et les hôteliers.
Les restaurateurs, des hôteliers, des cafés, les bars, brasseries, les discothèques et les traiteurs, organisateurs de réception.
Eh oui, bien sûr. Qu'on n'oublie pas, parce que c'est des drames, je dirais, entrepreneuriaux. Didier Chenet, alors moi je pose la question, je vous pose tout de suite la question qui est la première que je poserai à chacun des invités ce matin, Place du Marché. Où êtes-vous confiné? Avec qui? Dans quelles conditions?
Bien, moi je suis confiné en Bretagne avec mon épouse et nous ne sortons pas. Je ne sors pas, je sors juste dans mon jardin, c'est tout. Vous voyez, je suis au bord de la mer, je ne vais même pas ni sur la plage, ni en mer, ni quoi que ce soit. Je reste chez moi, je respecte scrupuleusement, et c'est ce que je ne cesse de dire à mes adhérents, à tous nos professionnels.
Oui, respecter les consignes. Alors ceux qui ont, comme vous peut-être, comme moi dans une moindre mesure, la chance d'avoir un petit potager, ça améliore évidemment l'ordinaire par rapport à nos copains qui vivent en ville et qui sont confinés parfois dans des petites surfaces. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce matin. Je vous ai demandé d'être au téléphone parce que je voudrais parler un petit peu de la situation, une dizaine de minutes avec vous. D'abord savoir, j'ai vu une vidéo que vous avez adressée à vos adhérents, pour leur expliquer un peu la situation, l'avenir qui se dessine, qui n'est pas rose, on le sait bien. D'abord, vous avez beaucoup de retours. Je pense que vous n'avez jamais autant téléphoné de votre vie. Vous devez être sollicité toute la journée.
Ah oui, ça, je n'ai jamais été autant au téléphone. Comme je disais, heureusement qu'il n'y a plus de forfait à l'heure sur les téléphones, parce que je pense que ça aurait explosé. Non, bien entendu, je suis au téléphone à la fois avec toutes mes équipes, qui font un travail formidable pour aider, pour répondre à tous nos professionnels. Je suis au téléphone aussi avec les ministres, que ce soit donc Monsieur Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud, Jean-Baptiste Mann. Je dois souligner à cet égard quand même la très grande qualité d'écoute et d'engagement du gouvernement dans cette affaire. Je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent. Et puis, je voudrais bien sûr aussi avoir un petit mot, saluer le courage exemplaire de tout le milieu médical. Et puis, saluer l'élan de générosité des hôteliers qui acceptent donc d'accueillir des aides-soignants et des SDF.
Oui, des personnels soignants, ils ont ouvert leurs chambres gratuitement et aussi des centres domiciles fixes. Il faut le noter, hein, bien sûr, à mettre au tableau d'honneur de l'hôtellerie française. C'est pas mal, ça fait du bien aussi d'entendre ça. Oui. Didier Chenet, vous qui avez donc qui êtes en contact en permanence avec ces restaurateurs, les chefs, on les entendra dans l'émission, au cours de l'émission. vous êtes vraiment aux premières loges pour ressentir cette inquiétude d'abord de la situation actuelle, mais ça, tout le monde la connaît, mais surtout pour l'avenir de leurs entreprises. Quels sont les axes et les questions qu'on vous pose le plus souvent ?
Premier axe, bien entendu, le social. Que fait-on de nos salariés qui sont la valeur primordiale de nos entreprises et les conditions d'application du chômage partiel ? Vous savez que le chômage partiel va indemniser une part du revenu des salariés, mais se pose chez nous une particularité. Vous savez qu'on a un régime conventionnel de 39 heures. Or, le chômage partiel serait calculé sur 35 heures. Ça veut dire que les 4 heures supplémentaires ne seraient pas payées, ce qui ferait une baisse de près de 25% de leur salaire, ce qui est absolument insupportable. Et donc, nous sommes en train de négocier pour que ces 39 heures, qui sont conventionnelles, soient prises en compte.
Alors, vous parliez de la qualité d'écoute du gouvernement, en tout cas de ses représentants, sur ce sujet, mais sur d'autres sujets aussi. Là, je pense que eux aussi, on peut dire que là, ils bossent en ce moment. Cette qualité d'écoute qui ne suffit pas, la mise en œuvre justement de ce chômage partiel, est-ce que c'est bien traité, est-ce que c'est bien relayé vers les professionnels ?
Alors écoutez, nous faisons le maximum pour le relayer, mais c'est vrai qu'il y a encore un certain nombre d'imprécisions. Et demain, nous avons donc une conf-call avec Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, et je pense que nous allons lever tout cela. C'est vrai qu'il y a encore quelques petits ajustements qui font que, même nous, dans les conseils que nous donnons, nous leur disons toujours, attention, nous vous donnons ce type de conseil, ça peut changer, ça peut évoluer, et nous espérons dans le bon sens. Et vous parliez de la qualité d'écoute, je crois que les banques, là le gouvernement a bien compris la situation, notamment déjà avec la BPI, la Banque publique d'investissement. Moi je tiens à saluer le formidable boulot fait par cette banque et son patron Nicolas Dufourc, puisque lui a décidé tout de suite un report automatique de tous les crédits sur 6 mois.
Absolument.
Et c'est ce que nous allons demander à Monsieur Oudéa, qui est le président de la Fédération des banques, pour qu'il en fasse de même et que ce ne soit pas à nos adhérents, nos professionnels, d'aller à la banque pour demander ce report. Il faut qu'il soit automatique. Et puis la grande inquiétude, et c'est les questions qui nous reviennent régulièrement, bien sûr, c'est comment vais-je faire pour assurer la paye de mes salariés du mois de mars ? Plus de trésorerie. Après tout ce qui s'est passé, on n'a plus de trésorerie.
Et a fortiori d'avril, parce que on est en train de s'acheminer vers un confinement long.
Bien sûr. Et que donc, il faut absolument que les banques, c'est ce qui est prévu, et Bruno Le Maire, là, vraiment, fait le nécessaire, et j'espère que M. Oudéa, là aussi, va faire en sorte que les banques répondent sans discuter pour obtenir ces crédits court terme qui nous permettront d'avancer l'argent le temps que l'État nous rembourse le chômage partiel. Et puis aussi qu'il y ait un taux qui soit un taux raisonnable, qu'il y ait un accord sur une échelle de taux. Voilà, ça, c'est des points qui nous restent encore et qui sont éminemment sensibles à régler.
Didier Chenet, où est-ce que les professionnels qui sont affiliés à ces professions autour de la restauration peuvent se renseigner, en fait ?
Alors, je dirais qu'ils peuvent se renseigner, bien entendu, en allant sur notre site, gani-hcr.fr, et puis vous avez des sites gouvernementaux, ils sont tous indiqués sur notre site.
D'accord.
Dans cette affaire, on est
On peut passer par vous, quand même.
Adhérents ou non, nous avons ouvert complètement notre information et tous les conseils que nous pouvons donner, je dirais quelquefois heure par heure, parce que c'est important.
Alors encore un tout petit mot, et on va accueillir notre deuxième invité, parce que là, on a parlé de mesures financières et de mesures qui touchent les entreprises, la vie des entreprises. Maintenant, je vais parler de sécurité sanitaire. Vous parliez tout à l'heure, dans vos adhérents, des cafetiers et des bureaux de tabac, donc j'imagine, ceux qui restent encore ouverts. Est-ce que vous avez des retours de mesures qui sont extrêmement drastiques prises par les professionnels pour assurer la sécurité ?
Oui, je sais qu'ils sont extrêmement scrupuleux, qu'ils maintiennent les trucs de barrière, là, les gestes de barrière, et qu'ils font le maximum. Je voudrais, Vincent, juste un petit mot, parce que ça concerne justement tous nos chefs, tous nos indépendants, tous ceux qui sont ce que l'on appelle des travailleurs non salariés. Pour eux aussi, parce que là, il n'y a pas de chômage partiel.
Bien sûr.
Eux aussi, il y a eu donc la création de ce fonds de solidarité nationale que nous avions donc souhaité il y a plus d'un mois. Alors, ce fonds de solidarité nationale, là encore, les mesures sont pas encore suffisamment bien précisées. On est à 1 500 €. Vous pensez bien que c'est pas avec 1 500 € qu'on va pouvoir dédommager nos travailleurs, donc nos salariés. On est en train de négocier un aménagement de ce fonds de solidarité nationale.
Oui, évidemment, ça prend du temps. Et on navigue à vue, hein, Didier Chenet, puisque chaque jour la situation évolue et que, vu la somme de travail, vu ce changement sociétal qui s'est amorcé, sur lequel on ne pourra pas revenir, en tout cas dans tous les domaines, il y a évidemment un peu de temps à passer dessus. Merci
et
beaucoup.
Vincent, est-ce que je peux ajouter juste un petit mot sur les assurances?
Parce qu'on leur a tiré un petit peu l'oreille, hein, les assureurs.
Écoutez, moi je tire les deux oreilles, parce que vous comprenez, quand on invoque le cas de force majeure pour ne rien faire, moi je trouve ça indécent.
Oui, non, c'est terrible.
Et quand en plus, pour les petits, vous leur écrivez en disant « on vous couvrira quand même si vous ne payez pas vos échéances », moi je trouve ça cynique. Voilà, j'ose le dire. Et là, les assureurs, autant Bruno Le Maire a pu obtenir des banques vraiment des avancées considérables, et là je crois qu'il y a encore un gros travail, il faut que les assureuses participent, encore
bien
une
sûr.
Fois, à cet élan de solidarité.
Et vous voyez, on imaginait que depuis quelques années, le métier de banquier et d'assureur s'était devenu le même. Et là, on voit qu'il y a des particularismes à chaque
Absolument.
Profession.
Absolument.
Merci beaucoup, Didier Chenet. Alors, vous pouvez saluer, évidemment, votre épouse avec qui vous êtes confiné. Et je vous souhaite quand même de passer le meilleur temps possible en Bretagne, au moins que le temps soit clément. Nous, on va partir de l'autre côté de la France, puisqu'on parlait de géographie. On va aller du côté de Colmar. Et j'ai en ligne avec nous mon ami Jean-Yves Schillinger. D'ailleurs, on dit Schillinger ou Schillinger, je ne sais jamais, en Alsace.
Aucune importance, Schillinger.
Schillinger. Alors, Jean-Yves, vous savez pourquoi je vous ai appelé? D'abord parce que vous êtes un grand chef, colmarien, mais surtout parce que je voulais, à travers vous, rendre hommage plus particulièrement aux chefs alsaciens et à tous les Alsaciens d'ailleurs, particulièrement touché entre Colmar et Mulhouse. C'est vraiment un épicentre de cette épidémie terrifiant.
Tout à fait, oui. Ça nous est tombé dessus il y a 2 semaines, donc on fait avec. Hein. On n'a pas le choix, on est comme vous. Hein.
Comment vous êtes confiné dans quelles conditions avec votre épouse?
Avec mon épouse et ma fille, oui. Donc on est tous dans notre maison, tranquille. Et on a un peu de chance d'avoir un peu de terrain aussi, donc ça va.
Ouais.
Donc on n'est pas trop à plaindre.
On va passer dans une minute une page de publicité. Dites-moi, Jean-Yves, comment ça se passe? Quelle est l'ambiance à Colmar? Parce qu'on a l'impression vraiment qu'il y a une pression supplémentaire due évidemment à la montée de l'épidémie folle.
Non, franchement, on voit rien du tout. Faut dire la vérité. Hein. Ça se passe à l'hôpital en fait. Hein.
Ouais.
Colmar, c'est comme partout, c'est vide. Hein, donc on voit rien du tout. Hein.
Oui, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est en fait la région est à feu et à sang, mais non, ça se passe dans le silence des chambres stériles, quoi.
Tout à fait, ça se passe là-bas. Franchement, on sera à Colmar ou à Nice, ça pareil. On verra.
D'accord, Jean-Yves. Jean-Yves, restez avec moi parce qu'on se retrouve dans une seconde après cette page.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Merci de rester avec nous, Place du Marché. Cela dit, vous avez pour la plupart d'entre vous bien le temps ce matin. C'est un dimanche qui n'est pas comme les autres, c'est un dimanche qui ressemble au jour de cette semaine, un dimanche où la plupart d'entre nous ne travaillent pas. Et donc, évidemment, on a le temps d'écouter la radio et d'écouter les chefs qui vont se succéder ici dans cette émission entièrement dédiée à la cuisine maison, à la cuisine des chefs à la maison, hein, pour une fois, ce qui est assez rare quand on connaît les hyperactifs que sont les chefs. C'est difficile de les imaginer confinés à ne rien faire. Et j'ai en ligne Jean-Yves Schillinger, notre ami de Colmar. Alors Jean-Yves, on disait à l'instant, et c'est très intéressant parce que c'est souvent une vision que l'on a à travers les médias. On a l'impression que l'Alsace est complètement à feu et à sang, que ça bouge dans tous les sens, que on ne sait plus faire, que ça tombe comme à gravelotte. J'ai envie de dire, excusez-moi, passez-moi l'expression. En fait, vous dites non. Pour ceux qui ne sont pas touchés directement, qui ne sont pas hospitalisés, la vie est presque normale à part le confinement.
Tout à fait. C'est comme tout le monde. Hein. On est à la maison tranquillement. On entend les bruits des sirènes, comme partout ailleurs, hein, je pense. Hein. Mais tout se passe dans les hôpitaux, en fait. Hein.
La différence, c'est que vous autour de vous, j'espère le plus loin possible, vous entendez quand même des gens qui sont touchés par cette maladie.
Tout à fait. Malheureusement, je pense que la grand-mère Ma femme, je crois qu'elle l'a touché aussi. On aura les résultats demain.
Évidemment,
oui. Elle a 92 ans, donc...
Ah oui. Donc vous êtes vraiment inquiet, vous avez cette pression supplémentaire, je dirais.
Tout à fait. Hein,
mais chacun dans le Haut-Rhin doit être touché, enfin dans son entourage proche ou moins proche. Hein, je suppose que tout le monde connaît quelqu'un qui a attrapé le Covid-19.
En fait, ce qui s'est passé, c'est comme vous le savez, il y a 15 jours, il y a une réunion évangéliste qui a eu lieu à Mulhouse.
Oui.
Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont été réunis dans cette église, ou dans cette salle, plus de 1500, je crois, personnes. Mmh. De toute la France, en fait.
Oui,
donc
c'est
malheureusement,
ça.
Tout le monde a été touché, mais beaucoup est parti justement de Mulhouse, quoi, à cause de ça. Quoi.
On sait que c'est le foyer, oui. Le foyer premier.
Donc il y a beaucoup qui sont d'Alsaciens et beaucoup qui sont un peu partout, quoi.
Jean-Yves, pour parler de choses un peu plus optimistes, que faites, puisque vous ouvrez le bal des chefs qui vont succéder, qu'est-ce que vous faites, vous, chez vous, toute la journée ?
Pas grand-chose.
Ah oui ?
Je fais comme tout le monde, je regarde un peu la télé. Franchement, je travaille sur la prochaine carte. J'ai le temps. On sait pas quand on va rouvrir, mais on travaille sur la prochaine carte.
Ça.
Donc on a le temps, donc on n'a pas de pression de ce côté-là. Ma fille qui est à Lausanne, elle est rentrée chez nous à la maison.
À l'école hôtelière, oui.
Elle était à l'école hôtelière de Lausanne, donc on en profite de un peu plus que d'habitude. Mmh. Et avec ma femme, je commence un peu à cuisiner à la maison, ce que je fais jamais, quoi. Donc c'est ma femme.
Oui, c'est ça, ce que j'allais vous dire. Tout d'un coup, les chefs de retour chez eux, ils se mettent à cuisiner, alors que d'habitude, c'est pas là.
Tout à fait. C'est en général, c'est ma femme qui cuisine. Enfin, c'est toujours ma femme qui cuisine. C'est et donc, pour une fois, on va jouer un petit coup de main de temps en temps, quoi.
Bah, ça ne doit pas être facile pour elle de vous avoir sur les pattes. Où est-ce que tu as mis le couteau ? Parce que vous ne savez pas où sont rangées les choses, etc.
C'est tout à fait ça. Ouais. Où est la casserole ? C'est tout à fait ça. Mais bon, on s'amuse plus que ça, mais ça se passe très très bien. Hein. Ça se passe très très bien.
Restez avec moi parce que je vais vous demander dans un instant une recette. Je voudrais recevoir un deuxième invité dans l'émission, un chef que vous connaissez bien, c'est Julien Dubouet. Bonjour Julien.
Bonjour Vincent, ça va ?
Vous allez bien ?
Oui, écoute, ça va très bien.
C'est des grandes diagonales, hein. C'est des grandes diagonales, puisque là on est en Alsace avec Jean-Yves et Julien Dubouet, ben, il est landais. D'ailleurs, vous êtes confiné où, Julien ?
Ah, je suis confiné à Paris.
Oui. Là où il y a vos restaurants, hein, bien sûr.
Oui. J'ai pris. Il a fallu faire un choix. C'est soit je descendais chez mes parents, effectivement, dans les Landes, mais vu que mon père, ils sont un petit peu âgés et pas très bien, pas en grande forme, donc on a décidé de rester à Paris.
Bon, alors après vous avoir suivi à Top Chef il y a quelques temps maintenant, quelques années, temps a passé. Je vous suis, vous savez, dans Cuisine Impossible avec votre copain Juan Arbalaz. Mais là, c'est pas un peu Cuisine Impossible à la maison en ce moment ?
Ouais, impossible, non. Après, nous, c'est vrai qu'on en a un peu l'habitude. Les week-ends, on cuisine en général en famille ou les soirs où j'arrive à rentrer du restaurant aussi. Donc, on a repris nos bonnes habitudes du week-end, mais tous les jours. Donc, tout le monde y participe. Les enfants, ma femme participe plus avec le téléphone, donc elle s'amuse à nous filmer et à faire quelques vidéos pour.
Ah ouais, bah oui.
C'est ça aux followers.
Ouais, vous êtes super actif sur les réseaux sociaux, hein, Julien. De façon générale et particulièrement en ce moment, parce que vous avez le temps.
Alors, exactement. C'est que d'habitude, je fais 2-3 stories, on va dire, au restaurant. Mais en fait, en ce moment, on a vachement de temps. Donc, effectivement, on montre un peu toutes les recettes que l'on peut faire à la maison sur nos réseaux sociaux. Et les gens en sont très contents. Et il y a une grosse activité, effectivement, sur les réseaux par rapport à ce que l'on montre. Oui.
Vous sentez que, comme les gens ont le temps de cuisiner, bon, ils n'ont pas forcément les produits, parce que le marché va devenir de plus en plus compliqué. Là, pour l'instant, la première semaine, ça va, on a un peu épuisé ce qu'on avait fait comme marché. Après, on va rentrer dans le dur, peut-être, avec les conserves, les légumes secs, les pâtes. Vous n'avez pas ce sentiment ?
Non. Ben, nous, c'est vrai qu'on a les frigos et les placards.
Du resto.
Ouais. Exactement, parce qu'on a ramené du restaurant, donc on a cette chance-là. Mais voilà, on va faire comme tout le monde, on va sortir le moins possible et cuisiner tout ce que l'on a dans les placards, quoi.
Ah, j'aime bien quand vous dites le moins. Ça, c'est votre bel accent landais. Non, mais c'est bien, vous dites je suis à Paris, mais voilà, il y a quand même les Landes qui parlent à travers vous. Julien, vous avez vous avez évidemment le souci de votre famille et de vos proches. Ça va autour de vous, parce que je suppose que vous passez du temps aussi à prendre des nouvelles de tout le monde.
Alors oui, ça va. On prend beaucoup de nouvelles entre restaurateurs. Donc là, on est plutôt inquiet, évidemment, par rapport à des décrets qui tombent, d'ailleurs celui de ce matin, qui ne nous fait pas plaisir. Mais après, il faut surtout penser à nos familles, effectivement. Donc on s'appelle beaucoup avec la famille et s'occuper essentiellement de des personnes que l'on a autour de nous aujourd'hui, donc c'est-à-dire ma femme et mes deux enfants, quoi.
Pouvez nous parler en un mot du décret de ce matin et de ce qui vous chagrine ?
Ben oui, j'ai vraiment un goût amer en bouche. Hein. Alors c'est pas le pamplemousse que j'ai mangé ce matin, c'est ce qu'on a lu. Donc on a appris que les assurances ne participeraient pas à nous aider pour la perte de nos chiffres d'affaires pendant
le mois d'exploitation, la perte d'exploitation. Oui.
Donc
c'est ce que disait Didier Chenet, le président du GNI, tout à l'heure. Hein. Il disait autant les banques jouent le jeu, autant les assureurs on leur tire les oreilles. Il va falloir que ça se règle quand même.
Non, mais il va vraiment falloir que ça se règle. Il va vraiment falloir qu'on nous aide par rapport à ça parce que sinon on se relèvera pas tout simplement. Hein. Et quand je dis on, c'est tous les restaurateurs de France, quoi. Donc bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon, ça laisse
un petit peu aussi, bien sûr, Julien. Mais j'ai envie de vous demander, puisque vous évoquez le sujet, au fond, on se retrouve en ce moment dans une situation, on le sait bien, inédite pour chacun. Qu'est-ce qui prend le dessus chez vous ? L'inquiétude sanitaire par rapport à votre famille, vos proches, ou l'attitude de l'entrepreneur et du chef d'entreprise de ne jamais retrouver un chiffre d'affaires correct, suffisant, de ne pas pouvoir payer vos salariés, de ne pas pouvoir continuer simplement, peut-être même de fermer certaines unités. Qu'est-ce qui prédomine chez vous aujourd'hui ?
Alors, bon, franchement, je vais parler non, ce qui prédomine, oui, c'est l'inquiétude en fait proche, et donc c'est familial.
Pour les gens qu'on aime, quoi.
Des gens que l'on a autour, des gens que l'on aime. Évidemment, ça, c'est 23 heures de la journée. Mais le matin, quand on se réveille, on a quand même l'habitude d'aller travailler. Donc, quand je me réveille le matin et que je n'ai pas très bien dormi, je pense aussi à mes entreprises pour dans un mois, dans deux mois et dans six mois, quoi. Mais non, ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est ma famille et mes proches, quoi, évidemment.
Bien sûr.
Fait de rester à la maison et de ne pas véhiculer ce virus. Et de faire le moins possible.
Alors, Jean-Yves Schillinger, à Colmar, vous avez-vous ce sentiment aussi, le matin, de tourner un peu comme un lion en cage ? Parce qu'on sait bien que les chefs sont des hyperactifs, hein, surtout à votre niveau de cuisine.
Bon, j'ai la chance, j'y vais tous les matins au bureau. Hein, donc, je prends la voiture, je mets la voiture au garage du restaurant, et je ne croise personne, mais je vais tous les matins au bureau.
Donc, je reste... D'accord. Donc ça vous...
Non.
Mais ça vous décharge un petit peu de cette pression.
Et comme tout le monde, on l'a appris le soir, on l'a appris à 7h30 du soir. 4 heures après, on devait finir les vider des frigos, etc. Parce qu'on était au courant de rien du tout. Hein.
Donc, mais je sais, ça a été la débâcle. Oui, bien
comme
sûr.
On a distribué de la marchandise, on a ramené beaucoup à la maison.
Oui, au personnel d'abord.
Oui, tout à fait. On a de la réserve chez nous, dans les congés un peu partout. Quoi. Mais comme il a dit.
Et c'est vrai que Jean-Yves, excusez-moi.
Oui,
bien sûr. Jean-Yves, il nous reste une minute chacun, à vous et à Julien, pour nous donner une petite recette de la maison. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, Jean-Yves Schillinger ?
Alors, j'ai fait une recette toute simple. C'est un peu de la région de chez nous, hein. Même si c'est un peu à Lorraine. J'ai fait une quiche fourre-tout. On peut mettre tous les restes
une
dedans.
Quiche fourre-tout. Ouais, le fameux fourzitou.
Voilà, c'est ça, voilà. Alors c'est très simple, ça prend au maximum 5 minutes. Hein. C'est une quiche sans pâte, en fait. Donc, je vous donne la recette.
Oui, mais rapidos, on a 30 secondes. C'est comme une grosse omelette, en fait, avec plein de choses.
Non, c'est juste de la farine, des œufs. Et vous rajoutez de la crème fraîche et du lait. Et là, vous rajoutez du jambon, du gruyère. Et vous mettez ça dans un plat à tarte, bien beurré. Vous mettez ça au four à 180 degrés pendant 25 minutes.
Dans du papier cuisson, si on veut,
même pas,
par exemple.
Même pas.
Dans le plat directement, le plat à tarte.
J'ai essayé hier soir, ça marche très bien. Hein. Et vous pouvez même le démouler ou manger dans le plat. Et vous mettez tous les restes de...
Oui.
Et dans le sud, vous mettez des olives, vous mettez des restes de thon en boîte, vous mettez plein de choses dedans.
Ouais, des petits poivrons, choses comme ça, petits oignons. Là, c'est parfait. Et ça me va comme recette, Jean-Yves. Ça me donne envie, puis ça se mange froid après. Julien, qu'est-ce que vous avez fait, vous, cette semaine qui a bien marché ?
Alors, ben, avec les enfants, on a fait beaucoup de pâtisseries. Donc, on a juste fait une pâte sablée. On a fabriqué des mikados avec. On a fabriqué des chocos.
Ah, génial.
Et hier, pour le déjeuner, on s'est fait des pâtes carbonara végétales. Donc, on a cuit des tagliatelles.
Ah oui, c'est quoi ça?
On a cuit des tagliatelles et dans la même eau, j'ai jeté, donc j'ai goûté mes pâtes, j'ai mis une poignée d'épinards ou de mâches ou de laitues que l'on a sous la main, en fait, comme salade. Et dans un bol, j'y ai mis deux jaunes d'œufs, un peu de parmesan ou de gruyère, une poignée de pignon, du sel, du poivre, une petite gousse d'ail. J'ai pris mes épinards qui avaient cuit, je les ai mis dans ce bol et j'ai mixé longuement. Donc, on a une sauce très verte et j'ai roulé mes pâtes là-dedans.
Une sauce verte.
Ouais, voilà.
Et vous avez mis du jaune d'œuf? Non, pas du tout.
Ah, si, si, bien sûr.
Végétalienne. Ah, si. Ah, voilà, d'accord. Donc, végétarienne, pas végétalienne. Ok, merci beaucoup, mes amis. Jean-Yves, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience, à Julien aussi, en espérant que l'activité reprendra suffisamment vite quand on se sera débarrassé du Covid. Et je vous souhaite un bon confinement, je prendrai de vos nouvelles. Et bonne journée, merci, on part pour une page de publicité. À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour, place du marché, un marché virtuel, un marché dans ses placards, un marché dans ses frigos, un marché confiné, hein, comme tout le monde, puisque cette émission, elle est en direct depuis chez moi. Voilà, attention, hein, ça va me donner des idées, même quand on sera plus confiné, c'est assez confortable de faire ça depuis sa cuisine. Avec ce matin des chefs, parce que les chefs, ils sont touchés, ce sont évidemment des gens touchés dans leur famille, dans leurs proches, comme nous tous, et inquiets, mais ce sont également des entrepreneurs avec aucun parachute, j'ai envie de dire le plus souvent, hein, des gens qui sont en première ligne, qui vont devoir faire face à des traites, qui vont devoir faire face au paiement des salaires de tous leurs employés et qui, pour qui l'avenir n'est pas rose. Et on en parlait à l'instant avec Julien Dubouet, le chef de Boulogne à Paris. Alors, j'ai en ligne, puisqu'on continue un petit peu notre tour de France, j'ai en ligne un très grand chef du Sud, c'est notre ami Christophe Baquier au Castellet. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Comment ça va, chef? Je demande à tout le monde, hein, ça va autour de vous? Vous êtes confiné avec famille?
Oui, on est confiné en famille et puis on respecte les règles qu'on nous a demandé de respecter, ce qui nous paraît plutôt logique et ce serait bien que tout le monde le fasse.
Alors, c'est naturel, hein, je dirais presque, de le faire, mais c'est vrai, c'est bien quand on est un chef, qu'on est suivi, qu'on est regardé, qu'on est mof de surcroît, qu'on incarne des valeurs, et c'est bien de rappeler, parce qu'ils le font tous, hein, les chefs, de dire on suit les instructions. Il faut servir un petit peu d'exemple pour ceux qui seraient un peu plus laxistes, hein, vous êtes d'accord?
Oui, on se doit aujourd'hui d'être exemplaire dans notre quotidien. C'est notre quotidien au travail, mais notre quotidien également dans la vie. Et on essaye à travers ce qui arrive au monde entier aujourd'hui de faire pareil. Et puis ça, enfin moi je vais vous dire personnellement, sans aller sur le cuisinier ou pas, je pense que la moindre des choses pour respecter soi-même et respecter les autres et sa famille et tant de personnes, c'est d'écouter ce qu'on nous dit et de rester chez nous tout simplement.
Voilà, c'est bien dit, c'est simple et c'est clair, comme vous êtes en général, Christophe. Alors Christophe, je rappelle que vous êtes le chef de l'hôtel, à l'hôtel du Castellet, votre restaurant Christophe Baquier, 3 étoiles au guide Michelin, meilleur ouvrier de France, donc on imagine bien que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps sur la brèche, en temps normal, hein, depuis l'aube jusqu'au bien tard dans la soirée, et là, est-ce que vous tournez comme un lion en cage, ou est-ce que vous trouvez ce confinement intéressant pour d'autres raisons?
Non, bah c'est alors intéressant en ouvrant les guillemets et en les fermant très vite. C'est intéressant parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de se retrouver en famille, de découvrir peut-être des choses et une partie de notre famille malheureusement qu'on voit pas, mais pour découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, prendre un petit déjeuner tous les matins ensemble. Je fais qu'avec ma femme aujourd'hui en détente, etc. Donc c'est naturellement que ça a du bon, et encore sur la première semaine. Il va falloir voir sur la durée ce que ça va.
Oui, bien sûr.
Mais pour l'instant, moi, personnellement, j'arrive à m'occuper parce que j'ai des choses à faire chez moi. Je me maintiens en sport. J'essaye de continuer à faire du sport de manière.
Qu'est-ce que vous faites comme sport?
Je fais du vélo, donc j'ai un home trainer puisqu'on n'a pas le droit de faire de vélo. Donc j'ai fait ma dernière sortie de vélo tant que c'était autorisé. Mmh. Et puis j'ai un home trainer, donc j'ai mis un home trainer dans le jardin et puis je pédale en face de mes arbres et ça fait faire un autre exercice. Je continue à faire du sport à la maison avec voilà, avec du gainage, avec des pompes, avec essayer de garder une forme. Voilà, et puis c'est surtout qu'on a besoin, comme tu l'as dit, ça, on a besoin de s'occuper parce que c'est, on est un peu comme des lions, on va devenir comme des lions en cage à un moment donné. Donc, il faut
trouver des activités, mais c'est pas
sans
ce qui manque.
La cuisine, parce que on mange trois fois plus que d'habitude. Donc,
ah oui, c'est le cas chez vous.
On a à manger.
Donc, ouais. C'est-à-dire que généralement, la famille, elle passe un peu en dernier hein, pour un grand chef. D'abord, vous n'êtes pas souvent chez vous. Et puis, en général, quand on met tout le soin, qu'on apporte tout le soin nécessaire à la cuisine que l'on fait pour ses convives, ses clients, la famille, elle passe un petit peu en deuxième rideau. Ben là, du coup, ils ont peut-être la chance d'avoir ce chef 3 étoiles à la maison, en fait.
Oui, moi aussi, j'ai de la chance parce que ma femme fait très bien à manger, donc ouais. Voilà, je pense que c'est une chance partagée. Puis on a dit que la semaine prochaine, peut-être qu'avec les enfants, chacun allait faire sa recette. Donc on essaye de faire,
oui,
même si c'est
de faire tourner. Ah oui, de faire naître des vocations. Ils ont quel âge vos enfants?
Bah 19, 18 et 16.
Donc, ah oui, d'accord. Donc là, ça y est, ça se détermine déjà sur les métiers plus tard. Il y en a d'ailleurs qui se distinguent avec cette non. fibre culinaire ou pas du tout
non,
dans
pas
les
tout.
Trois
non, pas du tout.
Ça peut venir
non.
plus tard, hein, croyez-moi. Hein, je parle de territoire de connaissance là. Christophe Baquet, je ne sais pas ce que un petit mot pour dire quand même que la Provence semble, enfin dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors dans le côté niçois, c'est terrible. Hein, là, il y a un foyer apparemment qui semble assez vivace pour le Covid. De votre côté de la Provence, ça va encore? Vous sentez que c'est la guerre dehors ou est-ce que c'est la Provence telle qu'on l'aime avec le premier soleil du printemps et que les gens ne sentent pas trop la pression?
Non, moi je vais vous dire. Alors j'ai peut-être une double chance. La première, c'est d'avoir la chance d'avoir une maison et un jardin. Donc je
ne
sens pas aujourd'hui
on pense ceux qui sont en ville, c'est terrible.
Exactement, ce confinement. Ensuite, j'ai un chien, ce qui me permet de pouvoir le sortir autour de la maison. Mais quand on sort, c'est poignant, quoi. Il y a personne. Il se passe rien. C'est juste incroyable ce qui se passe.
Et les oiseaux chantent et la nature ne sait pas que le Covid est là.
On regarde le ciel. D'habitude, on a l'habitude de voir passer des avions. Il n'y a pas un avion. C'est juste dingue. Et je pense que c'est oui, on a l'impression d'être dans un film, alors on ne l'est pas, malheureusement, mais c'est incroyable, incroyable. Donc oui, on sent quand même cette, et puis quand on croise les gens dans la rue, alors le peu qu'on croise, tout le monde s'écarte, etc., etc., donc c'est vraiment...
Des comportements tout à fait nouveaux, hein, et c'est vrai que ça fait
on sent quelque chose de lourd quand même, on sent quelque chose
sûr,
de lourd.
Bien sûr,
et on a fait notre première semaine.
Christophe Baquet, on va accueillir un autre chef et puis après je vous demanderai votre recette avant notre page de pub parce que j'ai demandé à chaque chef de nous préparer une petite recette de la maison. Hein, on perd pas le nord quand même. Cet autre chef, un ami également, comme tous ceux qui sont là ce matin, c'est Bruno Verjus du restaurant Table à Paris. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien.
Bruno, vous êtes tout seul, vous, hein, dans votre confinement.
Oui, moi,
c'est une retraite.
C'est un confinement qui tient à l'isolement, à une retraite. Mais c'est très intéressant parce que finalement, vous savez, dans nos métiers, on se retrouve pas très souvent face à soi-même. On est vraiment au contact de tout le monde, surtout chez moi, chez Table, où tout est ouvert. Donc, on passe notre vie avec les clients.
Bien sûr.
D'abord avec ses équipes, mais surtout avec le client. On est tous ensemble. Il n'y a pas une vraie frontière entre la cuisine et la salle. Et donc là, je le prends comme une expérience presque mystique, très intéressante.
C'est ça. De se retrouver, je vous disais une retraite, un ermitage.
Voilà, juste face à soi-même, d'autant que là, je suis dans le centre de Paris, à côté des bords de Seine, et qu'effectivement, il n'y a pas âme qui vive. Quoi.
Ville morte.
Et même, contrairement à la campagne de mon cher chef Christophe Baquet, moi, il n'y a même plus d'oiseaux d'où ils sont partis. Je pense qu'ils ont décidé de descendre dans le midi. Ils ont compris que c'était à Paris, la situation était un peu indélicate. Voilà.
Alors Bruno Verjus, vous êtes un chef étoilé également. Et alors vous avez un parcours. Hein, pardon?
Modestement étoilé.
Oui, mais bon, c'est on a que des grands chefs ce matin. Hein. Bruno, non, ce qui m'intéressait, c'est que vous avez un parcours particulier. Vous avez un parcours presque d'autodidacte, de passionné. Ouais. Vous avez eu deux vies. Vous avez une vie avant la cuisine et puis vous êtes venu sur le tard. Et pourtant, vous avez donc ce titre d'étoile Michelin. Ça veut dire que vous, la cuisine à la maison, ça a été toute votre vie en fait. Vous découvrez pas quelque chose.
Non, alors c'est effectivement, c'est très très intéressant ce que vous dites, Vincent, parce que finalement, moi, ma vocation de cuisinier, elle est née en faisant la cuisine pour mes enfants, pour mes amis, pour ma femme, et donc me retrouver ici. Alors bon, à la différence près que là, je suis tout seul, donc c'est
cuisiner pour soi-même. Cuisiner pour soi-même, c'est moins drôle.
Compris qu'on fait pas trop d'efforts, mais comme je veux néanmoins être dans ce partage de la cuisine, parce que la cuisine, c'est de l'amour qu'on a envie de partager, c'est des produits exceptionnels, ça on le sait, et nos artisans sont quand même des gens merveilleux aussi, qui bien évidemment continuent à cultiver leur jardin et à veiller un petit peu à tout, parce que là, on peut pas laisser filer la saison. Je vous rappelle qu'on est au printemps. Nous, les chefs, on va laisser filer le printemps, ce qui personnellement me met dans un état de désespoir complet, d'autant que la nature...
Et imaginez pour les chocolatiers avec Pâques, hein. Imaginez.
Oui, voilà, mais ouais, pour c'est les chocolatiers, terrible aussi. C'est un drame encore plus important, parce que c'est un drame financier. Nous, moi, je le vois plus comme un drame, si vous voulez, d'exercice
humain,
du bonheur et de partir aussi dans cette énergie des plantes qu'on va un petit peu rater. En revanche, pour les jardiniers, c'est
extrêmement
mobilisé.
Bruno, juste un petit mot, parce que le temps court, mais je sais que vous êtes un fou des produits de la mer. Vous avez toujours à cœur de trouver les plus exceptionnels produits, des turbots de 12 kilos, des langoustines de 200 grammes vivantes. Enfin bon, je veux dire, aujourd'hui, c'est terrible hein, pour les pêcheurs, ce qui se passe. Parce que les pêcheurs, ils ont le droit de continuer à travailler, sauf que personne n'achète leurs poissons.
Personne n'achète les poissons, c'est évident. Et toutes ces grosses pièces-là, qui sont des pièces... qui partent évidemment pour la très très belle cuisine, aujourd'hui n'ont plus de clients. Et c'est dramatique, c'est absolument dramatique pour ces filières-là,
d'ailleurs,
qui sont déjà très en danger naturellement, évidemment.
Bien sûr. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fera une spéciale Place du Marché sur les agriculteurs, hein, tout ce monde agricole qui travaille à nous nourrir, parce que je crois qu'aussi il faut leur rendre hommage dans ces périodes troublées. Christophe Baquier, vous aussi, le poisson, ça doit être un crève-cœur pour vous, hein, parce que vous aussi, vous avez des pièces de poisson extraordinaires, hein, sur le littoral.
Oui, on pense bien entendu à nos pêcheurs, comme le disait Bruno, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la filière, qui touche à la fois nos métiers de bouche et bien au-delà. Il y a naturellement les maraîchers, les pêcheurs, les vignerons, etc. Même si le vin se garde.
Et tout cela ne peut pas s'arrêter en plus. Hein. Je pense aux éleveurs notamment. Les vaches, faut les traire et puis il faut les nourrir.
Exactement. Et ils voient parfois leur récolte. Bon, on va essayer très humblement de par exemple, je vois Sylvain avec ses asperges qui envoie des asperges en chrono fraîche. Etc. Je pense qu'il doit y avoir un réseau qui doit se mettre en route pour aider absolument nos producteurs à ce qu'ils continuent au minimum et peut-être même au maximum de vendre leurs produits qui sont d'une qualité fantastique.
Oui. D'ailleurs, Bruno Verjus l'a cité, hein, Sylvain, les réseaux sociaux avec un petit film sur l'asperge. Ouais, magnifique.
C'est ce qu'on essaie.
Alors, Christophe Baquier, avant de vous quitter, moi je vais garder Bruno Verjus parce qu'il ne nous a pas encore donné sa recette. Avant de partir à la pub, en 30 secondes, une petite recette de la maison, de la famille Baquier.
Oui, j'ai mis il y a quelques jours sur ma page Instagram une recette qui a très bien fonctionné et je pense que tout le monde peut la faire avec ses dernières endives, un peu de miel, du jus d'orange, une brindille de romarin si vous en avez, mais ce n'est pas dramatique s'il n'y en a pas, et vous coupez ces endives en deux.
Il est magnifique dans le jardin.
En ayant pris soin de bien les laver naturellement, on les met côté fendu dans la poêle, quelques noix de beurre,
on les grille.
Ce jus d'orange qu'on aura filtré, 2-3 cuillères de miel suivant ce que vous aimez, plutôt un miel toute fleur, pas un miel trop amer, puisque les endives sont amères, donc on couvre de jus d'orange et on complète avec de l'eau. Et ensuite on cuit ça à couvert. Et quand les endives sont cuites, on prend soin avec la pointe d'un couteau de vérifier la cuisson.
Qu'elle soit tendre à cœur, oui.
Exactement. Là, on continue la cuisson découvert, je dirais, et pour arriver à une caramélisation. Et on a des endives qui sont à la fois légèrement sucrées, une pointe d'amertume et très fondante. Et je pense qu'on a, avec la caramélisation et ce fondant, quelque chose d'exceptionnel. J'ai reçu plein de messages, c'est pour ça que j'avais envie de la partager aujourd'hui.
Bah, vous avez bien fait. Vous avez bien fait.
C'est marrant parce que.
Et pour avoir le.
Et partage avec nous, et je trouve ça fantastique. Voilà.
Ok, Christophe, pour avoir le pas à pas, on ira sur votre compte Instagram, voir comment ça se passe. Merci beaucoup, Christophe Baquet. Embrassez votre femme et votre famille. Prenez-en soin. On se retrouve très vite dans des temps meilleurs, j'espère. Je garde Bruno Verjus avec moi et on le retrouve tout de suite après ça.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente.
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
De retour, place du marché, enfin, place du marché. On n'est pas sorti faire le marché d'habitude, j'y vais le dimanche, avant l'émission, mais là, j'ai préféré rester confiné. Puis c'est les mesures mises en place, et il faut obéir, c'est juste, il n'y a pas d'autre façon d'arrêter cette saloperie de virus. Alors, mes amis, on est donc, moi, dans ma cuisine, et souvent les chefs aussi, et c'est pour ça qu'on en entend ce matin nous raconter un petit peu leur mode confinement, la cuisine qu'ils font chez eux, et j'étais à l'instant avec Christophe Baquet, qui est retourné cuisiner pour ses enfants. Et j'ai gardé avec moi Bruno Verjus du restaurant Table à Paris, des restaurants étoilés. Alors Bruno, on le disait, la filière souffre énormément. Et aujourd'hui, vous qui êtes en ville et seul, vous êtes quand même moins gâtés que ceux qui peuvent avoir recours à un petit potager, un petit coin de jardin autour de chez eux. Parce que vous le rappeliez, c'est le printemps et la nature, elle se fiche du Covid. Hein, elle pousse.
Ben oui, absolument. On est obligé de faire un peu les fonds de placard. Bon, je vais quand même pas vous mentir. C'est vrai que mes artisans, qui sont quand même tous des merveilles, m'ont proposé tous en m'appelant, en disant « Bruno, on sait que c'est pas évident. On va t'envoyer des petits colis de légumes. »
On va pas te laisser mourir de faim tout seul.
On va te nourrir. Et c'est vrai que voilà, aussi bien Eric Roy que Sylvain Erard, enfin tous ces gens-là, ou mon camarade Pierre Robin qui ramasse des herbes sauvages aussi. Là-bas, paumé en montagne, voilà, ils sont tous prêts en fait, ils ont tous envie. Mais bon, on est quand même dans des conditions un peu difficiles. Mais c'est là aussi où c'est très intéressant parce que, voyez, moi, je trouve qu'on est obligé dans le cadre de cette quête personnelle de se ressourcer aussi. Et moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup manger les lentilles. C'est quelque chose. Vous savez, je suis né à Rouen. Les lentilles du Puy, ouais, c'est pas ouais, très loin. Bah oui. Et donc, il y avait cette culture de se faire un plat de lentilles, comme ça, qu'on pouvait agrémenter avec une charcuterie ou même avec rien du tout. Alors, je voulais vous parler des lentilles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Ah bah dites-moi un petit mot. Oui, parce que vous êtes extrêmement actif sur les réseaux sociaux. C'est normal. Vous êtes confiné seul. Donc, vous avez le temps. Et puis, vous avez une communauté de clients, d'amis, d'amoureux qui vous suivent toute l'année. Donc là, plus que jamais. Alors, oui, c'est quoi cette recette de lentilles, façon Bruno?
Je fais les recettes pour eux. C'est tellement touchant. Je regardais hier. Ils sont extraordinaires tous parce qu'après ils publient tous ils ont fait les recettes à la maison, ils les publient et c'est touchant de beauté, d'amour, de compréhension. Enfin, c'est bouleversant, sincèrement. Ça, sur le thème de notre rapport à l'humain, c'est quelque chose qui se passe là et je pense qu'on oubliera cette mauvaise période, oui. Mais on retiendra qu'il y a un rapport à l'humain qui est vraiment bouleversant de beauté.
Ouais. Alors, vous êtes plus qu'un chef, vous êtes un peu un philosophe et un poète, Bruno. Et c'est vrai que dans ces périodes de crise extrême, on touche vraiment au moi profond des gens.
Hein. Bah oui,
on
beau,
peut pas, le masque tombe. Hein. On se montre tel qu'on est.
C'est très très beau. Enfin voilà, on peut pas. Voilà, c'est moi, ça me fait presque pleurer de bonheur, quoi. Et alors, si vous voulez, donc, alors, moi, j'ai un petit producteur merveilleux qui s'appelle Guillaume Chauvron, qui est à Champé, qui fait des lentilles blondes. Et j'aime beaucoup les lentilles blondes. J'aime beaucoup les lentilles blondes. Je trouve qu'il y a une délicatesse.
C'est où ça, Champé?
Quelque chose comme ça. Alors, Champé, vous direz exactement, j'en sais rien. C'est vers la Haute-Loire.
Mais c'est pas loin de chez vous.
Ça, je vais faire un succès, c'est pas trop loin de chez moi. Mais voilà, en tout cas, son produit est magique, aussi bien en farine d'ailleurs qu'en lentilles. Parce qu'on oublie souvent qu'on peut travailler aussi les farines de lentilles pour faire plein de choses et que c'est vraiment intéressant. Là, ce que je voulais vous dire juste...
Alors, pour saluer Régis Marcon, le grand chef de Haute-Loire, avec qui je travaille dans une autre activité, qu'on embrasse, qui est un peu le pape de la lentille en France. Voilà, donc lui. Voilà.
Lui, il est sur la lentille verte, effectivement, qui est une autre variante. Mais il y a tellement de couleurs dans la lentille, et puis finalement, chaque terroir, chaque pays, chaque région, chaque culture a des lentilles. La lentille, c'est quand même la première légumineuse, finalement, qui a été, qui est passée du stade sauvage, quasiment en Mésopotamie, et puis qui a été amenée dans un jardin, ce qui n'était pas des jardins à l'époque, parce que le jardin est arrivé bien plus tard. Mais en tout cas, on a compris que les valeurs en protéines de ce produit-là étaient exceptionnelles et que c'était bon pour nous. Donc, on va s'en faire des lentilles parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de.
Allez, donnez-moi la recette et après, on la retrouvera sur votre réseau.
La recette, elle est super simple. Vous allez cuire des lentilles, vous mettez pas de sel. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de laurier, une carotte, un oignon. On peut mettre un petit étoile de badiane si on a envie parce qu'on amène une fraîcheur un petit peu anisée comme ça, exotique. Et moi, j'aime cuire les lentilles quand elles vont à peine se donner à la bouche. C'est-à-dire qu'il y a le petit croquant qui arrive sous la langue et puis la lentille se donne comme ça. J'aime pas les cuire un peu trop. Donc, je sais qu'il y a différentes cultures. Mais moi, c'est ainsi que je les aime. Et puis, alors après, ben, écoutez, on fait les fonds au frigo. Hein. Moi, il se trouve que j'avais encore du persil, j'avais un peu de ciboulette, j'avais de la coriandre, etc., etc. Donc, j'ai haché tout ça très finement avec mes carottes cuites, mon oignon. J'ai fait une belle vinaigrette et puis j'ai mélangé tout ça. Mais il y avait plus d'herbes que de lentilles. C'est ça que j'aime. Mais on peut le faire aussi avec des légumes. Vous pouvez.
Comme le taboulé, quoi. Hein, comme le vrai taboulé libanais où il y a plus d'herbes que de semoule.
un taboulé de lentilles. Et si vous voulez que ce soit presque d'ailleurs une belle assiette pour le soir, parce qu'on ne peut manger que ça, vous rajoutez un bel œuf mollet au milieu de tout ça, quelques feuilles de salade.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est tout simple. Alors vous me faites plaisir parce que moi, la vie de ma famille a changé. Moi, j'ai toujours fait de la salade de lentilles. Mon père adorait ça. Le jour où j'ai rajouté de la coriandre ciselée. Parce que là, ça réveille ce côté terreux et à la fois et l'élégance volcanique de la lentille.
Il faut dire une chose à tout le monde aussi quand vous avez de la coriandre, surtout ce qui est le plus intéressant à la coriandre, c'est les tiges, ne jetez pas les tiges,
bien
c'est
sûr.
La merveille des merveilles, il n'y a pas que les feuilles, voilà.
Merci Bruno, je vais devoir prendre congé, vous rendre à vos suiveurs, à vos followers, comme on dit, puisque j'ai en ligne Christophe Hay, le chef de la maison d'à côté, un Solognon, enfin, entre Val-de-Loire et Sologne, on peut dire. Merci Bruno, merci, on prend des nouvelles,
beaucoup,
on s'en donne.
Oui, on se tient.
Moi, je vous suis. Ça marche.
À très vite.
Et prenez soin de vous.
On va avoir un appétit de dingue dans 15 jours, vous allez voir. Sûr. Je vous embrasse tous, au revoir.
Allô Christophe, hey.
Bonjour à tous.
Comment ça va Christophe? Comment allez-vous?
Mais c'est un peu plus facile pour nous, on va dire, qui sommes un peu plus reculés.
À la campagne, quoi.
Ville, à la campagne, bien sûr.
Alors vous êtes pas loin de Chambord, hein, pour situer le tableau, pour ceux qui connaissent pas bien votre région. Et votre restaurant s'appelle la Maison d'à Côté, avec 2 étoiles. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que la Maison d'à Côté, en fait, c'est votre maison aujourd'hui. Parce que vous êtes dans la maison d'à côté, confiné.
C'est ça, exactement, tout à fait. Mais voilà, on garde un lien avec ce Val, puisque du coup, on a le jardin qu'on essaie d'entretenir, hein, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que la nature reprend ses droits, et avec les chaleurs qu'on a eues ces 2-3 derniers jours là, ça a poussé, c'est impressionnant.
Et alors particulièrement vous, parce que vous êtes un dingue de légumes, vous avez un potager magnifique, des producteurs de petits légumes de spécialité, donc c'est votre travail de fond, ce travail sur le végétal. Et là, bah du coup, le printemps est là et on n'a rien à faire du Covid-19, le printemps.
Ben c'est ça, et ce qui est impressionnant, hier je suis parti arroser le jardin parce que du coup on a une partie de serre et on s'aperçoit que la nature elle reprend ses droits, quoi. Il y a des faisans partout, des perdreaux, c'est impressionnant et c'est vrai que tout repart et les abeilles sont sorties, voilà, tout est en fleurs, c'est vrai que c'est joli, mais ça fait bizarre de sortir. J'ai vraiment pris soin de rester à la maison et quand tu sors 5 minutes, ça te fait trop drôle, quoi.
Alors, on évoquait avec Bruno Verjus, qui est un fou de produits, comme pouvait l'être, évidemment, à ce niveau de cuisine, le fait que aujourd'hui, les producteurs, et vous avez vraiment des maraîchers qui vous sont chers, n'ont plus d'écoulement de leur récolte, c'est très, très compliqué parce qu'en plus, ceux qui servent les restaurateurs, ils n'ont plus de débouchés. Est-ce qu'ils arrivent à basculer sur des petits marchés ou sur d'autres réseaux de distribution?
Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et Bruno parlait tout à l'heure d'Éric Roy. Donc, Éric Roy, il est juste à côté de Tours. Éric a mis en place justement des paniers avec des endroits où on peut aller les chercher. C'est vraiment pas mal fait et ça permet justement d'avoir un panier avec un panel de légumes assez intéressant. Les fermes aux alentours se sont aussi mobilisés de façon à ce qu'on puisse aller retirer justement de quoi cuisiner. Et je pense qu'il y a eu une vraie belle mobilisation justement des petits producteurs locaux.
Ouais. Oui. Vous avez vu débarquer pas mal de Parisiens aussi. Hein. Je ne veux pas remettre de l'huile sur le feu avec cette polémique des Parisiens qui ont emmené leur virus à la campagne. Mais je suppose que dans le Val-de-Loire, ça a été le cas aussi.
Ouais, moi je les ai pas vus. Il faut bien se comprendre qu'on est tous dans le même cas que Parisiens ou en province. Et
on peut comprendre qu'on ait envie de se mettre au vert plutôt que de rester confiné dans des petites surfaces urbaines sans accès à la nature, quoi. Faut bien le comprendre.
Tout à fait. Et puis il y a beaucoup de maisons secondaires dans la région, donc que les Parisiens soient venus dans leurs maisons secondaires, je les comprends tout à fait, parce que d'être enfermé dans 12 ou 20 mètres carrés, c'est pas toujours très agréable. Donc si on peut au moins sortir la tête et avoir cette vue sur la campagne, c'est quand même plus sympa. Ouais.
Alors Christophe, vous qui arrivez à faire manger plus de légumes à vos enfants que la moyenne des Français, je peux dire que vous avez l'art et la manière. Je vous ai demandé, comme à chacun de vos confrères, une petite recette du jour. Qu'est-ce que vous m'avez concocté ?
Alors cette petite recette, elle va pas être végétale, parce que là on va être sur un dessert.
Ah bah génial, pour terminer l'émission, le dessert, c'est bien.
Bah ouais, j'avais envie de vous partager le dessert de ma maman, parce que c'était vraiment le petit dessert facile du dimanche. Comme vous le saviez, nous on avait une ferme familiale, donc on avait le lait de la ferme, en fait, hein. Et avec ça, elle nous faisait la semoule de blé au lait. Donc ça, c'est super, parce que du coup tu le goûtes un peu dans la casserole là, puis ça aime bien aussi frais.
J'adore ça, moi.
Ça, très simple en fait, hein, on fait bouillir un litre de lait avec une petite gousse de vanille et puis 70 grammes de sucre. On fait bouillir ça et puis ensuite on y plonge 200 grammes de semoule de blé, et puis on laisse cuire pendant 5 à 10 minutes. Donc vraiment, quand on a cette texture qu'on apprécie et puis que le blé il commence à être juste un tout petit peu croquant, là il est super. Et puis à côté de ça, souvent on met un peu de caramel au fond des pots.
Ouais.
Moi, ce qu'elle aimait bien, c'était faire des petits cubes de pommes. Donc je vous parle de la pomme pâte de loup, parce que ça c'est vraiment une pomme
pâte de
la région.
Ah ouais.
Oui. Ouais, elle a une petite griffe sur la peau, et puis cette pomme, elle est hyper parfumée, une toute petite
acidulée,
acidité.
Ou très sucrée. Oui, une
un
petite acidité,
petit peu acidulée,
ouais,
mais
fraîcheur,
vraiment,
quoi.
Vraiment parfumée. C'est franchement, si vous en trouvez un jour, elle ressemble un peu à la Canada ou voilà.
Oui, ben on fera avec ce qu'on a. Hein. Même si on a que des golden génial, on peut le faire quand même. Excusez-moi, mais cette recette, on la trouve sur vos réseaux sociaux ? Vous l'avez mise en ligne ?
On va la faire justement aujourd'hui avec
Ça c'est bien. C'est bien, parce que moi, vous voyez, juste avant l'émission, j'ai fait les petits pois à la française. C'était le plat du premier dimanche de printemps que nous faisait notre père.
Ouais.
Et j'ai fait un petit tuto pour donner la recette sur Instagram, sur Véfernio tout à l'heure. Hein, parce qu'on se doit quand même à nos camarades qui nous suivent toute l'année pour avoir les bons plans, les bonnes recettes, hein, quand on est chef comme vous.
Il faut, c'est important. Et puis surtout en ce moment, je trouve que voilà, la cuisine, ça nous rassemble tous. Et puis c'est un moment qu'on passe en famille. Donc là, j'ai lancé des petites recettes avec ma fille Lizzie. J'ai mis au cuisine avec Lizzie. Et puis voilà, je les poste sur mon Instagram. Donc comme ça, ça me permet de garder
un lien. Christophe H-A-Y, voilà, on peut le dire. Merci Christophe, merci. Je vous souhaite un bon retour. Enfin non, j'allais dire un bon retour chez vous. Non, vous allez faire 3 mètres et vous y êtes, quoi. Un bon retour en cuisine pour votre famille aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et même des moins proches, hein, parce qu'en ce moment, c'est un grand élan de solidarité. Moi, je voudrais remercier particulièrement les équipes de Sud Radio, hein, qui sont à la manœuvre et qui arrivent à tenir la baraque, comme on dit, et à faire que les émissions soient encore diffusées pour votre plus grand bonheur. On se retrouve dimanche prochain à 10h. Je serai toujours dans ma cuisine, à mon avis. Et on parlera un petit peu des agriculteurs. On les a évoqués en filigrane dans cette émission. Mais eux qui nous nourrissent toute l'année, pour qui ce n'est pas simple, et peut-être beaucoup moins simple évidemment que d'habitude, eh bien nous aurons des témoignages à l'antenne. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches. Prenez soin surtout de la planète et de l'humanité en suivant les consignes. Allez, bonne journée à tous, à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.